Jean Leroy d'Alembert, Encyclopédie, Discours préliminaire. L'encyclopédie que nous présentons au public est, comme son titre l'annonce, l'ouvrage d'une société de gens de lettres. Nous croirions pouvoir assurer, si nous n'en étions pas du nombre, qu'ils sont tous avantageusement connus ou dignes de l'être. Mais sans vouloir prévenir un jugement qui n'appartient qu'aux savants et de porter, il est au moins de notre devoir d'écarter avant toute chose l'objection la plus capable de nuire au succès d'une si grande entreprise. Nous déclarons donc que nous n'avons point eu la témérité de nous charger seuls d'un poids si supérieur à nos forces et que notre fonction d'éditeur consiste principalement à mettre en ordre les matériaux dont la partie la plus considérable nous a été entièrement fournie. Nous avons fait expressément la même déclaration dans le corps du prospectus, mais elle aurait peut-être dû se trouver à la tête. Par cette précaution, nous eussions apparemment répondu d'avance à une foule de gens du monde, et même à quelques gens de lettres, qui nous ont demandé comment deux personnes pouvait traiter de toutes les sciences et de tous les arts, et qui néanmoins avait jeté dans tous les yeux, tous sur le prospectus, puisqu'ils ont bien voulu l'honorer de leurs éloges. Ainsi, le seul moyen d'empêcher sans retour leur objection de reparaître, c'est d'employer, comme nous faisons ici, les premières lignes de notre ouvrage à la détruire. Ce début est donc uniquement destiné à ceux de nos lecteurs qui ne jugeront pas à propos d'aller plus loin. Nous devons aux autres un détail beaucoup plus étendu sur l'exécution de l'encyclopédie. Ils le trouveront dans la suite de ce discours, avec les noms de chacun de nos collègues, mais ce détail si important sur sa nature et par sa matière demande à être précédé de quelques réflexions philosophiques. L'ouvrage dont nous donnons aujourd'hui le premier volume à deux objets. Comme encyclopédie, il doit exposer autant qu'il est possible l'ordre et l'enchaînement des connaissances humaines, et comme dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, il doit contenir sur chaque science et sur chaque art, soit libéral, soit mécanique, les principes généraux qui en sont la base, et les détails les plus essentiels qui en sont le corps et la substance. Ces deux points de vue, d'encyclopédie, de dictionnaire raisonné, formeront donc le plan et la division de notre discours préliminaire. Nous allons les envisager, les suivre l'un après l'autre, et rendre compte des moyens par lesquels on a attaché de satisfaire à ce double objet. Pour peu qu'on ait réfléchi sur la liaison que les découvertes ont entre elles, il est facile de s'apercevoir que les sciences et les arts se prêtent mutuellement du secours et qu'il y a par conséquent une chaîne qui les unit. Mais s'il est souvent difficile de réduire à un petit nombre de règles ou de notions générales, chaque science ou chaque art en particulier, il n'en est pas moins de renfermer en un système qui soit un les branches infiniment variées de la science humaine. Le premier pas que nous ayons à faire dans cette recherche est d'examiner, qu'on nous permette ce terme, la généalogie et la filiation de nos connaissances. Les causes qui ont dû les faire naître et les caractères qui les distinguent. En un mot, de remonter jusqu'à l'origine et à la génération de nos idées. Indépendamment des secours que nous t'en retirerons de cet examen, pour l'énumération encyclopédique des sciences et des arts, il ne saurait être déplacé à la tête d'un ouvrage tel que celui-ci. On peut diviser toutes nos connaissances en directes et en réfléchies. Les directes sont celles que nous recevons immédiatement sans aucune opération de notre volonté, qui, trouvant ouvertes, si on peut parler ainsi, toutes les portes de notre âme y entrent sans résistance et sans effort. Les connaissances réfléchies sont celles que l'esprit acquiert en opérant sur les directs et en les unissant et en les combinant. Toutes nos connaissances directes se réduisent à celles que nous recevons par les sens. D'où il s'ensuit que c'est à nos sensations que nous devons toutes nos idées. Ce principe des premiers philosophes a été longtemps regardé comme un axiome par les scolastiques. Pour qu'il lui fisse cet honneur, il suffisait qu'il fût ancien, il l'aurait défendu avec la même chaleur les formes substantielles ou les qualités occultes. Aussi cette vérité fut-elle traitée à la naissance de la philosophie, comme les opinions absurdes dont on aurait dû la distinguer. On la proscrivit avec elle, parce que rien n'est si dangereux pour le vrai, et ne l'exposer tant à être méconnu que l'alliage ou le voisinage de l'erreur. Le système des idées innées, séduisant à plusieurs égards, et plus frappant peut-être parce qu'il doit être moins connu, a succédé à l'axiome des scolastiques, et après avoir longtemps régné, il conserve encore quelques partisans, tant la vérité a de peine à répondre sa place quand les préjugés ou le sophisme l'ont chassé. Enfin, depuis assez peu de temps, on convient presque généralement que les anciens avaient raison. Ce n'est pas la seule question sur laquelle nous commençons à nous rapprocher d'eux. Rien n'est plus incontestable que l'existence de nos sensations. Ainsi, pour prouver qu'elles sont le principe de toutes nos connaissances, il suffit de démontrer qu'elles peuvent l'être. Car en bonne philosophie, toute déduction qui a pour base des faits ou des vérités reconnues est préférable à ce qui n'est appuyé que sur des hypothèses, même ingénieuses. Pourquoi supposer que nous ayons d'avance des notions purement intellectuelles si nous n'avons besoin pour les former que de réfléchir sur nos sensations? Le détail où nous allons entrer fera voir que ces notions n'ont point en effet d'autre origine. La première chose que nos sensations nous apprennent, et qui même n'en est pas distinguée, c'est notre existence. D'où il s'ensuit que nos premières idées réfléchies doivent tomber sur nous, c'est-à-dire sur ce principe pensant qui constitue notre nature et qui n'est point différent de nous-mêmes. Mais la seconde connaissance que nous devons à nos sensations est l'existence des objets extérieurs, parmi lesquels notre propre corps doit être compris, puisqu'il nous est, pour ainsi dire, extérieur, même avant que nous ayons de démêler la nature du principe qui pense en nous. Ces objets innombrables produisent sur nous un effet si puissant, si continu, et qui nous unit tellement à eux, qu'après un premier instant où nos idées réfléchies nous rappellent en nous-mêmes, nous sommes forcés d'en sortir par les sensations qui nous assiègent de toutes parts et qui nous arrachent à la solitude où nous resterions sans elles. La multiplicité de ces sensations, l'accord que nous remarquons dans le témoignage, les nuances que nous y observons, les affections involontaires qu'elles nous font éprouver, comparées avec la détermination volontaire qui préside à nos idées réfléchies et qui n'opère que sur nos sensations mêmes, tout cela forme en nous un penchant insurmontable à assurer l'existence des objets auxquels nous rapportons nos sensations et qui nous paraissent en être la cause. Penchant que bien des philosophes ont regardé comme l'ouvrage d'un être supérieur et comme l'argument le plus convaincant de l'existence de ces objets. En effet, n'ayant aucun rapport entre chaque sensation et l'objet qui l'occasionne, ou du moins auquel nous la rapportons, il ne paraît pas qu'on puisse trouver par le raisonnement le passage possible de l'un à l'autre. Il n'y a qu'une espèce d'instinct plus sûr que la raison même qui puisse nous forcer à franchir ce si grand intervalle. Et cet instinct est si vif en nous que quand on supposerait, pour un moment, qu'il subsistât, pendant que les objets extérieurs seraient anéantis, Ces mêmes objets, reproduits tout à coup, ne pourraient augmenter sa force. Jugeons donc sans balancer que nos sensations ont en effet hors de nous à cause que nous leur supposons, puisque l'effet qui peut résulter de l'existence réelle de cette cause ne saurait différer en aucune manière de celui que nous éprouvons. Et n'imitons point ces philosophes, dont parle Montaigne, qui, interrogés sur les principes des actions humaines, cherchent encore s'il y a des hommes. Loin de vouloir répandre des actions, des nuages sur une vérité reconnue, des sceptiques même, lorsqu'ils ne discutent pas, laissons aux métaphysiciens éclairer le soin d'un développement de principes. C'est à eux à déterminer, s'il est possible, quelle gradation observe notre âme dans le premier pas qu'elle fait hors d'elle-même, poussée pour ainsi dire et retenue tout à la fois par une foule de perceptions qui d'un côté l'entraîne vers les objets extérieurs et qui de l'autre, n'appartenant proprement qu'à elle, semble lui circonscrire un espace étroit dont elle ne lui permet pas de sortir. De tous les objets qui nous affectent par leur présence, notre propre corps est celui dont l'existence nous frappe le plus, parce qu'elle nous appartient plus intimement. Mais à peine sentons-nous l'existence de notre corps que nous nous apercevons de l'intention qu'il exige de nous pour écarter les dangers qui l'environnent. Sujet à mille besoins et sensible au dernier point à l'action des corps extérieurs, il serait bientôt détruit si le soin de sa conservation ne nous occupait. Ce n'est pas que tous les corps extérieurs nous fassent éprouver des sensations désagréables. Les uns semblent nous dédommager par le plaisir que leur action nous procure. Mais tel est le malheur de la condition humaine, que la douleur est en nous le sentiment le plus vif. Le plaisir nous touche moins qu'elle, et ne suit presque jamais pour nous en consoler. En vain, quelques philosophes soutenaient, en retenant leur cri au milieu des souffrances, que la douleur n'était point un mal. En vain, quelques autres plaçaient le bonheur suprême dans la volupté à laquelle ils ne laissaient pas de se refuser par la crainte de ses suites. Tout serait mieux connu notre nature si c'était contenté de borner à l'exemption de la douleur le souverain bien de la vie présente, et de convenir que, sans pouvoir attendre à ce souverain bien, il nous était seulement permis d'en approcher plus ou moins à proportion de nos soins et notre vigilance. Des réflexions si naturelles frapperont infailliblement tout homme abandonné à lui-même et libre de préjugés, soit d'éducation, soit d'études. Elles seront la suite de la première impression qu'il recevra des objets. Et l'on peut les mettre au nombre de ces premiers mouvements de l'âme, précieux pour les vrais sages et dignes d'être observés par eux, mais négligés ou rejetés par le philosophe ordinaire, dont il démente presque toujours les principes. La nécessité de garantir notre propre corps de la douleur et de la destruction nous fait examiner parmi les objets extérieurs ce qui peut nous être utile ou nuisible pour rechercher les uns et fuir les autres. Mais à peine commençons-nous à parcourir ces objets, nous découvrons parmi eux un grand nombre d'êtres qui nous paraissent entièrement semblables à nous, c'est-à-dire dont la forme est toute pareille à la nôtre, et qui, autant que nous en pouvons juger au premier coup d'œil, semblent avoir les mêmes perceptions que nous. Tout nous porte donc à penser qu'ils ont aussi les mêmes besoins que nous éprouvons, et par conséquent le même intérêt de la satisfaire. D'où il résulte que nous devons trouver beaucoup d'avantages à nous unir avec eux pour démêler dans la nature ce qui peut nous conserver ou nous nuire. La communication des idées est le principe, le soutien de cette union et demande nécessairement l'invention des signes. Telle est l'origine de la formation des sociétés avec laquelle les langues ont dû naître. Ce commerce que tant de motifs puissants nous engagent à fermer, formés avec les autres hommes, augmente bientôt l'étendue de nos idées, nous en fait naître de nouvelles pour nous, et de très éloignées, selon toute apparence, de celles que nous aurions eues par nous-mêmes, sans un tel secours. C'est au philosophe à juger si cette communication réciproque, jointe à la ressemblance que nous apercevons entre nos sensations et celles de nos semblables, ne contribue pas beaucoup à fortifier ce penchant invincible que nous avons à supposer l'existence de tous les objets qui nous frappent. Pour me renfermer dans mon sujet, je remarquerai seulement que l'agrément et l'avantage que nous trouvons dans un pareil commerce, soit à faire part de nos idées aux autres hommes, soit à joindre les leurs aux nôtres, doit nous porter à resserrer de plus en plus les liens de la société commencée et à la rendre la plus utile pour nous qu'il est possible. Mais chaque membre de la société, cherchant ainsi à augmenter pour lui-même l'utilité qu'il en retire, ayant à combattre dans chacun des autres un empressement égal au sien, tous ne peuvent avoir la même part aux avantages, quoique tous y aient le même droit. Un droit si légitime est donc bientôt enfreint par ce droit barbare d'inégalité, appelé loi du plus fort, dont l'usage semble nous confondre avec les animaux, et dont il est pourtant si difficile de ne pas abuser. Ainsi, la force donnée par la nature à certains hommes, et qui ne doivent sans doute employer qu'au soutien et à la protection des faibles, est au contraire l'origine de l'oppression de ces derniers. Mais plus l'oppression est violente, plus ils la souffrent impatiemment, parce qu'ils sentent que rien de raisonnable n'a dû les y assujettir. De là la notion de l'injuste et par conséquent du bien et du mal moral, dont tant de philosophes ont cherché le principe, et que le cri de la nature, qui retentit dans tout homme, fait entendre chez les peuples même les plus sauvages. De là aussi cette loi naturelle que nous trouvons au-dedans de nous, source des premières lois que les hommes ont dû former. Sans le secours même de ces lois, elle est quelquefois assez forte, sinon pour anéantir l'oppression, au moins pour la contenir dans certaines bornes. C'est ainsi que le mal que nous éprouvons par les vices de nos semblables produit en nous la connaissance réfléchie des vertus opposées à ces vices, connaissance précieuse, dont une union et une égalité parfaite vous aurait peut-être privé. Par l'idée acquise du juste et de l'injuste, et conséquemment de la nature morale des actions, nous sommes naturellement amenés à examiner quel est en nous le principe de qui agit, ou qui en est, c'est la même chose, la substance qui veut et qui conçoit. Oh, il ne faut pas approfondir beaucoup la nature de notre corps, l'idée que nous en avons, pour reconnaître qu'il ne saurait être cette substance, puisque la propriété que nous observons dans sa matière n'a rien de commun avec la faculté de vouloir et de penser. D'où il résulte que cet être appelé « nous » est formé de deux principes de différentes natures, tellement unis qu'il règne entre les mouvements de l'un et l'autre, des affections, une correspondance que nous ne saurions ni suspendre ni atterrer, et qui le tient dans un assujettissement réciproque. Cet esclavage si indépendant de nous, joint aux réflexions que nous sommes forcés de faire sur la nature des deux principes et sur leur imperfection, nous élève à la contemplation d'une intelligence toute puissante à qui nous devons ce que nous sommes et qui exige par conséquent notre culte. Son existence, pour être reconnue, n'aurait besoin que de notre sentiment intérieur, quand même le témoignage universel des autres hommes et celui de la nature entière ne s'y joindraient pas. Il est donc évident que les notions purement intellectuelles de vice et de la vertu, le principe et la nécessité des lois, la spiritualité de l'âme, l'existence de Dieu et nos devoirs envers lui en un mot, les vérités dont nous avons le besoin le plus prompt et le plus indispensable, sont le fruit des premières idées réfléchies que nos sensations occasionnent. Quelque intéressantes que soient ces premières vérités pour la plus noble portion de nous-mêmes, le corps auquel elle est unie nous amène bientôt à lui par la nécessité de pouvoir à des besoins qui se multiplient sans cesse. Sa conservation doit avoir pour objet ou de prévenir les maux qui le menacent ou de remédier à ceux dont il est atteint. Et c'est à quoi nous cherchons à satisfaire par deux moyens. Savoir par nos découvertes particulières et par les recherches des autres hommes, recherches dont notre commerce avec eux nous met à la portée de profiter, et de là ont dû l'être d'abord l'agriculture, la médecine, enfin tous les arts les plus absolument nécessaires. Ils ont été en même temps et nos connaissances primitives et la source de toutes les autres, même de celles qui en paraissent très éloignées par leur nature. C'est ce qu'il faut développer plus en détail. Les premiers hommes, en cédant mutuellement de leur lumière, c'est-à-dire de leurs efforts séparés ou réunis, sont parvenus, peut-être en assez peu de temps, à découvrir une partie des usages auxquels ils pouvaient employer les corps. Avides de connaissances utiles, ils ont dû écarter d'abord toute spéculation oisive, considérer rapidement les uns après les autres les différents êtres que la nature leur présentait, et les combiner, pour ainsi dire, matériellement, par leurs propriétés les plus apparentes et les plus palpables. À ces deux premières combinaisons, il a dû en succéder une autre, plus recherchée, mais toujours relative à leurs besoins, et qui a principalement consisté dans une étude plus approfondie de quelques propriétés moins sensibles dans l'altération de la décomposition des corps et dans l'usage qu'on en pouvait tirer. Cependant, quelques chemins que les hommes dont nous parlons et leurs successeurs étaient capables de faire, excités par un objet aussi intéressant que celui de leur propre conservation, l'expérience et l'observation de ce vaste univers les ont fait rencontrer bientôt des obstacles que leurs plus grands efforts n'ont pas pu franchir. L'esprit, accoutumé à la méditation et avide d'en tirer quelques fruits, a dû trouver alors une espèce de ressource dans la découverte des propriétés des corps uniquement curieuses, découverte qui ne connaît point de bornes. En effet, si un grand nombre de connaissances agréables suffisait pour consoler de la privation d'une vérité utile, on pourrait dire que l'étude de la nature, quand elle nous refuse le nécessaire, fournit du moins avec profusion à nos plaisirs. C'est une espèce de superflu qui supplée, quoique très imparfaitement, à ce qui nous manque. De plus, dans l'ordre de nos besoins et des objets de nos passions, le plaisir tient une des premières places, et la curiosité est un besoin pour qui sait penser, surtout lorsque ce désir inquiet est animé par une sorte de dépit de ne pouvoir entièrement se satisfaire. Nous devons donc un grand nombre de connaissances simplement agréables à l'impuissance malheureuse où nous sommes d'acquérir celles qui nous seraient d'une plus grande nécessité. Un autre motif sert à nous soutenir dans un pareil travail. Si l'utilité n'en est pas l'objet, elle peut en être au moins le prétexte. Il nous suffit d'avoir trouvé quelquefois un avantage réel dans certaines connaissances, ou d'abord nous n'avions pas soupçonné, pour nous autoriser à regarder toutes les recherches de pure curiosité comme pouvant un jour nous être utiles. Voilà l'origine et la cause des progrès de cette vaste science, appelée en général physique, ou étude de la nature, qui comprend tant de parties différentes. L'agriculture et la médecine, qui l'ont principalement fait naître, n'en sont plus aujourd'hui que des branches. Aussi, quoique les plus essentielles et les premières de toutes, Elles ont été plus ou moins en honneur, en proportion qu'elles ont été plus ou moins étouffées et obscurcies par les autres. De cette étude que nous faisons de la nature, en partie par nécessité et en partie par amusement, nous remarquons que les corps ont un grand nombre de propriétés, mais tellement unies pour la plupart dans un même sujet, qu'afin de les étudier chacune plus à fond, nous sommes obligés de les considérer séparément. Par cette opération de notre esprit, nous découvrons bientôt des propriétés qui paraissent appartenir à tous les corps, comme la faculté de se mouvoir ou de rester en repos, et celle de se communiquer du mouvement, source des principaux changements que nous observons dans la nature. L'examen de ces propriétés, et surtout de la dernière, aidé par nos propres sens, nous fait bientôt découvrir une autre propriété dont elles dépendent. C'est l'impénétrabilité, ou cette espèce de force par laquelle chaque corps en exclut tout autre au lieu qu'il occupe, de manière que deux corps rapprochés le plus qu'il est possible ne peuvent jamais occuper une place moindre que celui qu'ils remplissent étant désunis. L'impénétrabilité est la propriété principale par laquelle nous distinguons les corps des parties de l'espace indéfini où nous imaginons qu'ils sont placés. Du moins, c'est ainsi que nos sens nous font juger. Et s'ils nous trompent sur ce point, c'est une erreur si métaphysique que notre existence, notre conservation n'en ont rien à craindre, et que nous y revenons continuellement, comme malgré nous, par notre manière ordinaire de concevoir. Tout nous porte à regarder l'espace comme ce lieu des corps, sinon réel, au moins supposé. C'est en effet par le secours des parties de cet espace considérées comme pénétrables et immobiles que nous parvenons à nous former l'idée la plus nette que nous puissions avoir du mouvement. Nous sommes donc comme naturellement contraints à distinguer, au moins par l'esprit, deux sortes d'étendues dont l'une est impénétrable et l'autre constitue le lien des corps. Ainsi, quoique l'impénétrabilité entre nécessairement dans l'idée que nous nous formons des portions de la matière, cependant, comme c'est une propriété relative, c'est-à-dire dont nous n'avons l'idée qu'en examinant deux corps ensemble, nous nous accoutumons bientôt à la regarder comme distincte de l'étendue et à la considérer, celle-ci, séparément de l'autre. Par cette nouvelle considération, nous ne voyons plus les corps que comme des parties figurées et étendues de l'espace. Point de vue le plus général et le plus abstrait sous lequel nous puissions les envisager. Car l'étendue où nous ne distinguerions point de parties figurées ne serait qu'un tableau lointain et obscur, où tout nous échapperait, puisqu'il nous serait impossible d'y rien discerner. La couleur et la figure, propriétés toujours attachées au corps, quoique variables pour chacun d'eux, nous servent en quelque sorte à les détacher du fond de l'espace. L'une de ces deux propriétés est même suffisante à cet égard. Aussi, pour considérer les corps sous la forme la plus intellectuelle, nous préférons la figure à la couleur, soit parce que la figure nous est plus familière, étant à la fois connue par la vue et par le toucher, soit parce qu'il est plus facile de considérer dans un corps la figure sans la couleur que la couleur sans la figure, soit enfin parce que la figure sert à fixer plus aisément et d'une manière moins vague les parties de l'espace. Nous voilà donc conduits à déterminer les propriétés de l'étendue simplement en tant que figurée. C'est l'objet de la géométrie, qui, pour y parvenir plus facilement, considère d'abord l'étendue limitée par une seule dimension, ensuite par deux, et enfin sous les trois dimensions qui constituent l'essence du corps intelligible, c'est-à-dire d'une portion de l'espace terminée en tous sens, par des bornes intellectuelles. Ainsi, par des opérations et des abstractions successives de notre esprit, Nous dépouillons la matière de presque toutes ses propriétés sensibles pour n'envisager en quelque manière que son fantôme. Et l'on doit sentir d'abord que les découvertes auxquelles cette recherche nous conduit ne pourront manquer d'être fort utiles toutes les fois qu'il ne sera point nécessaire d'avoir égard à l'impénétrabilité des corps. Par exemple, lorsqu'il sera question d'étudier leurs mouvements, en les considérant comme des parties de l'espace, figurées, mobiles et distantes les unes des autres. L'examen que nous faisons de l'étendue figurée nous présentant un grand nombre de combinaisons à faire, il est nécessaire d'inventer quelques moyens qui nous rendent ces combinaisons plus faciles. Et comme elles consistent principalement dans le calcul du rapport des différentes parties, nous imaginons que les corps géométriques sont formés, cette recherche nous conduit bientôt à l'arithmétique, ou science des nombres. Elle n'est autre que l'art de trouver, d'une manière abrégée, l'expression d'un rapport unique qui résulte de la comparaison de plusieurs autres. Les différentes manières de comparer ces rapports donnent les différentes règles de l'arithmétique. De plus, il est bien difficile qu'en réfléchissant sur ces règles, nous apercevions certains principes ou propriétés générales des rapports par le moyen desquels nous pouvons, en exprimant ces rapports d'une manière universelle, découvrir les différentes combinaisons qu'on en peut faire. Les résultats de ces combinaisons, réduits sous la forme générale, ne seront en effet que des calculs arithmétiques indiqués et représentés par l'expression la plus simple et la plus courte que puisse souffrir leur état de généralité. La science, ou l'art de désigner ainsi les rapports, est ce qu'on nomme algèbre. Ainsi, quoiqu'il n'y ait à proprement de calcul possible que par les nombres, ni de grandeur mesurable que l'étendue, car sans l'espace nous ne pourrions mesurer exactement le temps, nous parvenons, en généralisant toujours nos idées, à cette partie principale des mathématiques et de toutes les sciences naturelles qu'on appelle « science des grandeurs en général ». Elle est le fondement de toutes les découvertes qu'on peut faire sur la quantité, c'est-à-dire sur tout ce qui est susceptible d'augmentation ou de diminution. Cette science est le terme le plus éloigné où la contemplation des propriétés de la matière puisse nous conduire. Et nous ne pourrions aller plus loin sans sortir tout à fait de l'univers matériel. Mais telle est la marge de l'esprit dans ses recherches, qu'après avoir généralisé ces perceptions jusqu'au point de ne pouvoir pas les composer davantage, il revient ensuite sur ses pas, recompose de nouveau ses perfections mêmes et en forme peu à peu et par gradation les êtres tels qui sont l'objet immédiat et direct de nos sensations. Ces êtres immédiatement relatifs à nos besoins sont aussi ceux qui nous importent le plus d'étudier. Les abstractions mathématiques nous en facilitent la connaissance, mais elles ne sont utiles qu'autant qu'on ne s'y borne pas. C'est pourquoi, ayant eu quelque sorte épuisé par les spéculations géométriques les propriétés de l'étendue figurée, nous commençons par lui rendre l'impénétrabilité, qui constitue le corps physique, et qui était la dernière qualité sensible dont nous l'avions dépouillée. Cette nouvelle considération entraîne celle de l'action des corps les uns sur les autres, car les corps n'agissent qu'en tant qu'ils sont impénétrables. Et c'est de là que se déduisent les lois de l'équilibre et du mouvement, objet de la mécanique. Nous étendons même nos recherches jusqu'au mouvement de corps animés par des forces ou causes motrices inconnues, pourvu que la loi suivant laquelle ces causes agissent soit connue ou supposée l'être. Rentrés enfin tout à fait dans le monde corporel, nous apercevons bientôt l'usage que nous pouvons faire de la géométrie et de la mécanique pour acquérir sur les propriétés des corps les connaissances les plus variées et les plus profondes. C'est à peu près de cette manière que sont nées toutes les sciences appelées physico-mathématiques. On peut mettre à leur tête l'astronomie, dont l'étude après celle de nous-mêmes et la plus digne de notre application, par le spectacle magnifique qu'elle nous présente, joignant l'observation au calcul et les éclairant l'un par l'autre, cette science détermine avec une exactitude digne d'admiration les distances et les mouvements les plus compliqués des corps célestes. Elle assigne jusqu'aux forces mêmes par lesquelles ces mouvements sont produits ou altérés. Aussi peut-on la regarder, à juste titre, comme l'application la plus sublime et la plus sûre de la géométrie et de la mécanique réunies, et des progrès comme le monument le plus incontestable du succès auquel l'esprit humain peut s'élever par ses efforts. De plus, il est bien difficile qu'en réfléchissant sur ces règles, nous apercevions certains principes ou propriétés générales, des rapports par le moyen desquels nous pouvons, en exprimant ces rapports d'une manière universelle, découvrir les différentes combinaisons qu'on en peut faire. Les résultats de ces combinaisons, réduits sous la forme générale, ne seront en effet que des calculs arithmétiques indiqués et représentés par l'expression la plus simple et la plus courte que puisse souffrir leur état de généralité. La science, ou l'art de désigner ainsi les rapports, est ce qu'on nomme algèbre. Ainsi, quoiqu'il n'y ait à proprement de calcul possible que par les nombres, ni de grandeur mesurable que l'étendue, car sans l'espace nous ne pourrions mesurer exactement le temps, nous parvenons, en généralisant toujours nos idées, à cette partie principale des mathématiques et de toutes les sciences naturelles qu'on appelle sciences des grandeurs en général. Elle est le fondement de toutes les découvertes qu'on peut faire sur la quantité, c'est-à-dire sur tout ce qui est susceptible d'augmentation ou de diminution. Cette science est le terme le plus éloigné où la contemplation des propriétés de la matière puisse nous conduire. Et nous ne pourrions aller plus loin sans sortir tout à fait de l'univers matériel. Mais telle est la marge de l'esprit dans ses recherches, qu'après avoir généralisé ses perceptions jusqu'au point de ne pouvoir pas les composer davantage, il revient ensuite sur ses pas, recompose de nouveau ses perfections mêmes et en forme peu à peu et par gradation les êtres tels qui sont l'objet immédiat et direct de nos sensations. Ces êtres, immédiatement relatifs à nos besoins, sont aussi ceux qui nous importent le plus d'étudier. Les abstractions mathématiques nous en facilitent la connaissance, mais elles ne sont utiles qu'autant qu'on ne s'y borne pas. C'est pourquoi, ayant eu quelque sorte épuisé par les spéculations géométriques les propriétés de l'étendue figurée, nous commençons par lui rendre l'impénétrabilité qui constitue le corps physique et qui était la dernière qualité sensible dont nous l'avions dépouillée. Cette nouvelle considération entraîne celle de l'action des corps les uns sur les autres, car les corps n'agissent qu'en tant qu'ils sont impénétrables. Et c'est de là que se déduisent les lois de l'équilibre et du mouvement, objet de la mécanique. Nous étendons même nos recherches jusqu'au mouvement de corps animés par des forces ou causes motrices inconnues, pourvu que la loi suivant laquelle ces causes agissent soit connue ou supposée l'être. Rentrés enfin tout à fait dans le monde corporel, nous apercevons bientôt l'usage que nous pouvons faire de la géométrie et de la mécanique pour acquérir sur les propriétés des corps les connaissances les plus variées et les plus profondes. C'est à peu près de cette manière que sont nées toutes les sciences appelées physico-mathématiques. On peut mettre à leur tête l'astronomie, dont l'étude, après celle de nous-mêmes, est la plus digne de notre application, par le spectacle magnifique qu'elle nous présente, joignant l'observation au calcul et les éclairant l'un par l'autre, cette science détermine avec une exactitude digne d'admiration les distances et les mouvements les plus compliqués des corps célestes. Elle assigne jusqu'aux forces mêmes par lesquelles ces mouvements sont produits ou altérés. Aussi peut-on la regarder, à juste titre, comme l'application la plus sublime et la plus sûre de la géométrie et de la mécanique réunies et des progrès comme le monument le plus incontestable du succès auquel l'esprit humain peut s'élever par ses efforts. L'usage des connaissances mathématiques n'est pas moins grand dans l'examen des corps terrestres qui nous environnent. Toutes les propriétés que nous observons dans ces corps ont entre elles des rapports plus ou moins sensibles pour nous. La connaissance ou la découverte de ces rapports est presque toujours le seul objet auquel il nous soit permis d'atteindre, et le seul, par conséquent, que nous devions nous proposer. Ce n'est donc point par des hypothèses vagues et arbitraires que nous pouvons espérer de connaître la nature. C'est par l'étude réfléchie de phénomènes, par la comparaison que nous ferons les uns avec les autres, par l'art de réduire, autant qu'il sera possible, un grand nombre de phénomènes à un seul, qui puisse en être regardé comme le principe. En effet, plus on diminue le nombre des principes d'une science, plus on leur donne d'étendue. Puisque l'objet d'une science étant nécessairement déterminé, les principes appliqués à ce sujet seront d'autant plus féconds qu'ils seront en plus petit nombre. Cette réduction, qui les rend d'ailleurs plus faciles à saisir, constitue le véritable esprit systématique qu'il faut bien se garder de prendre pour l'esprit de système, avec lequel ils ne se rencontrent pas toujours. Nous en parlerons plus au long dans la suite. Mais à proportion que l'objet qu'on embrasse est plus ou moins difficile et plus ou moins vaste, la réduction dont nous parlons est plus ou moins pénible. On est donc aussi plus ou moins en droit de l'exiger de ceux qui se livrent à l'étude de la nature. L'aimant, par exemple, un des corps qui ont été le plus étudiés et sur lequel on a fait des découvertes si surprenantes, a la propriété d'attirer le fer. Celle de lui communiquer sa vertu, celle de se tourner vers le pôle du monde, avec une variation qui est elle-même sujette à ses règles, et qui n'est pas moins étonnante que ne le serait une direction plus exacte. Enfin, la propriété de s'incliner en formant avec la ligne horizontale un angle plus ou moins grand selon le lieu de la Terre où il est placé. Toutes ces propriétés singulières, dépendantes de la nature de l'aimant, tiennent vraisemblablement à quelque propriété générale qui en est l'origine et qui jusqu'ici nous est inconnue et peut-être le restera fort longtemps. À défaut d'une telle connaissance et des lumières nécessaires sur la cause physique des propriétés de l'aimant, ce serait sans doute une recherche bien digne d'un philosophe que de réduire, si c'était possible, toutes ces propriétés à une seule, en montrant la liaison qu'elles ont entre elles. Mais plus une telle découverte serait utile au progrès de la physique, plus nous avons lieu de craindre qu'elle ne soit refusée à nos efforts. J'en dis autant d'un grand nombre d'autres phénomènes dont l'enchaînement tient peut-être au système général du monde. La seule ressource qui nous reste et donc dans une recherche si pénible, quoique si nécessaire, et même si agréable, c'est d'amasser le plus de faits qu'il nous est possible, de les disposer dans l'ordre le plus naturel, de les rappeler à un certain nombre de faits principaux dont les autres ne soient que des conséquences. Et si nous osons, quelquefois, nous élever plus haut, que ce soit avec cette sage circonscription qui s'y est si bien, à une vue aussi faible que la nôtre. Tel est le plan que nous devons suivre dans cette vaste partie de la physique appelée physique générale et expérimentale. Elle diffère des sciences physico-mathématiques en ce qu'elle n'est proprement qu'un recueil raisonné d'expériences et d'observations. Au lieu que celle-ci, par l'application des calculs mathématiques et l'expérience, déduisent quelquefois d'une seule et unique observation un grand nombre de conséquences qui tiennent de bien près par leur certitude aux vérités géométriques. Ainsi, une seule expérience sur la réflexion de la lumière donne toute la catoptrique ou science des propriétés des miroirs. Une seule sur la réfraction de la lumière produit l'explication mathématique de l'arc-en-ciel, la théorie des couleurs, et toute la dioptrie ou science des verres concaves et convexes. ni la seule observation sur la pression des fluides. On tire toutes les lois de l'équilibre et du mouvement de ces corps. Enfin, une expérience unique sur l'accélération des corps qui tombent fait découvrir les lois de leur chute sur des plans inclinés et celles du mouvement des pendules. Il faut avouer pourtant que les géomètres abusent quelquefois de cette application de l'algèbre à la physique. Au défaut d'expériences propres à servir de base à leurs calculs, ils se permettent des hypothèses les plus commodes en vérité qu'il leur est possible, mais souvent très éloignées de ce qui est réellement dans la nature. On a voulu réduire en calcul jusqu'à l'art de guérir. Et le corps humain, cette machine si compliquée, a été traité par nos médecins algébristes, comme le serait la machine la plus simple ou la plus facile à décomposer. C'est une chose singulière de voir ces auteurs résoudre un trait de plume des problèmes d'hydraulique et de statistique capables d'arrêter toute leur vie les plus grands géomètres. Pour nous, plus sages ou plus timides, contentons-nous d'envisager la plupart de ces calculs et de ces suppositions vagues comme des jeux d'esprit auxquels la nature n'est pas obligée de se soumettre, et concluons que la seule vraie manière de philosopher en physique consiste ou dans l'application de l'analyse mathématique aux expériences, ou dans l'observation seule, éclairée par l'esprit des méthodes, aidée quelquefois par des conjectures lorsqu'elles peuvent fournir des vues, mais sévèrement dégagée de toute hypothèse arbitraire. Arrêtons-nous un moment ici et jetons les yeux sur l'espace que nous venons de parcourir. Nous y remarquerons deux limites où se trouvent, pour ainsi dire, concentrées presque toutes les connaissances certaines accordées à nos lumières naturelles. L'une de ces limites, celle d'où nous sommes partis, est l'idée de nous-mêmes, qui conduit à celle de l'être tout-puissant et de nos principaux devoirs. L'autre est cette partie de la mathématique qui a pour objet les propriétés générales des corps, de l'étendue et de la grandeur. Entre ces deux termes est un intervalle immense où l'intelligence suprême semble avoir voulu se jouer de la curiosité humaine, tant par les nuages qu'elle y a répandus sans nombre que par quelques traits de lumière qui semblent s'échapper de distance en distance pour nous attirer. On pourrait comparer l'univers à certains ouvrages d'une obscurité sublime, dont les auteurs, en s'abaissant quelquefois à la portée de celui qui les lit, cherchent à lui persuader qu'il entend tout à peu près. Heureux donc, si nous nous engageons dans ce labyrinthe de ne point quitter la véritable route. Autrement, les éclairs destinés à nous y conduire ne serviraient souvent qu'à nous en écarter davantage. Il s'en faut bien, d'ailleurs, que le petit nombre de connaissances certaines sur lesquelles nous pouvons compter, et qui sont, si on peut s'exprimer en la sorte, reléguées aux deux extrémités de l'espace dont nous parlons, soient suffisants pour satisfaire à tous nos besoins. La nature de l'homme, dont l'étude est si nécessaire et si recommandée par Socrate, est un mystère impénétrable à l'homme même, quand il n'est éclairé que par la raison seule. Et les plus grands génies, à force de réflexion sur une matière aussi importante, ne parviennent que trop souvent à en savoir un peu moins que le reste des hommes. On peut en dire autant de notre existence présente et future, de l'essence de l'être auquel nous le devons, et du genre de culte qu'il exige de nous. Rien ne nous est donc plus nécessaire qu'une religion révélée qui nous instruit sur tant de divers objets. Destinée à servir de supplément à la connaissance naturelle, elle nous montre une partie de ce qui nous a été caché, mais elle se borne à ce qui nous est absolument nécessaire de connaître. Le reste est fermé pour nous, et apparemment le sera toujours. Quelques vérités à croire, un petit nombre de préceptes à pratiquer, voilà à quoi la religion révélée se réduit. Néanmoins, à la faveur des lumières qu'elle a communiquées au monde, Le peuple même est plus ferme et plus décidé sur un grand nombre de questions intéressantes que ne l'ont été toutes les sectes des philosophes.